Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Eli Lemel, bonjour et Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Alors, on avance dans notre étude de notre paracha, ce passage qu'on lit chaque semaine dans nos communautés. Et donc là, on arrive à Kitetsé. Kitetsé parle d'énormément de choses. Et vous voulez essayer de nous inviter à réfléchir sur deux points particuliers qui peuvent être liés et qui sont, par exemple, tenir sa parole. Alors, tenir sa parole, c'est une évidence, il faut tenir sa parole, d'accord. Mais la Torah le place à un très haut niveau d'obligation. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, c'est considéré comme une obligation importante. Et il y a un autre engagement qui est de savoir payer à l'heure, en temps et en heure. Là encore, on pourrait penser peut-être que ce n'est pas la première mitzvah la plus énorme à laquelle j'aurais pensé immédiatement, mais si vous voulez, il y a un engagement éthique, un engagement vis-à-vis de l'autre, qui est très important, et c'est sur cela que je crois comprendre que vous voulez nous inviter à réfléchir cet après-midi, Rav Eli Lemel.
Exact. On est en effet dans une paracha dans laquelle il y a énormément de mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont données. Donc, je voulais justement m'arrêter sur ce que l'on va retrouver. Tout d'abord, au niveau de l'engagement. Alors, c'est ce qu'on appelle le neder. Le neder, c'est un engagement, c'est un vœu. Et donc, le texte nous dit « Kitidor neder l'Hashem elokecha lo t'acher le shalmo » lorsque tu auras fait un vœu pour l'Éternel, eh bien, n'attends pas pour le payer, car Dieu te le demandera. Et si tu ne payes pas en temps, eh bien, tu seras considéré comme fautif ou coupable. Et le texte nous dit, d'ailleurs, si tu fais pas d'engagement, ben, au moins, tu n'auras pas ce problème. Alors, tout de suite après, le verset nous dit « Motsa svatecha tishmor vasita » ce qui sort de ta bouche, tishmor, tu le garderas et tu feras, tu tiendras donc tes engagements. C'est-à-dire que le verset, en tout cas, on a plusieurs versets ici qui insistent très fortement sur la notion du respect de la parole. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose que l'on met un petit peu de côté. Le Rav Israël Salanter, maître du Moussar, maître de l'éthique, disait que on sait où quelqu'un en est au niveau de sa Yirat Shamaim, c'est-à-dire de sa... On en avait parlé d'ailleurs une fois ensemble, non pas de sa crainte de Dieu, mais de la conscience qu'il a de la présence de Dieu dans sa vie, non pas dans la manière dont il va mettre les téfilines tous les jours, qu'il faut mettre évidemment, non pas dans la manière dont il respecte le Shabbat, qu'il faut respecter évidemment, non pas dans la manière dont il est vigilant dans la cacheroute, et je répète, sur laquelle il faut faire évidemment très attention, mais dans le rapport à l'argent, le rapport à la parole, c'est-à-dire toutes ces choses sur lesquelles on peut avoir tendance soi-même à s'inventer des bonnes raisons pour ne pas faire exactement ce que l'on devrait faire. Et donc, on commence tout d'abord par cette notion de neder. Le neder, c'est quoi ? Ben, t'es pas obligé de le faire, ton vœu. Personne t'oblige à dire « je m'engage à faire telle et telle chose, je m'engage à donner telle et telle somme ». Au fond, on n'est pas ici dans l'univers dans lequel il y a en effet du commerce, de l'achat, de la vente des employés. Pas du tout. On est dans quelque chose qui est du domaine de l'optionnel. La Torah nous dit justement, fais très attention parce que tu vas dire « je prends sur moi » et tu te diras « bon, ben, comme rien n'y oblige si ce n'est ma parole, eh bien, ça peut prendre du temps et on verra ça une prochaine fois ». La Torah nous dit pas du tout. La Torah nous dit « il est hors de question de faire un vœu et de ne pas savoir déjà au moment où on le fait comment on va l'assumer ». Et ça, c'est donc au niveau de tous les vœux, et plus particulièrement au niveau des vœux d'argent. Motsa svatecha, ce qui sort de ta bouche, tu dois le garder. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les maîtres n'ont pas trop l'habitude de faire des engagements. Ils agissent. Parce que souvent, on se débarrasse de l'engagement en ayant dit qu'on allait s'engager. Vous savez, c'est un petit peu comme ces collectes de fonds. D'ailleurs, il y a des études intéressantes qui ont été faites dans lesquelles on montre que, eh bien, bon nombre de personnes qui se sont engagées à donner de l'argent lors des collectes pour malheureusement des catastrophes qui peuvent avoir lieu dans le monde, eh bien, beaucoup ne payent pas. Pourquoi ? Parce que le fait de l'avoir dit, déjà, ça les soulage. On a dit qu'on allait donner, on a dit qu'on allait faire. Eh bien, ça nous suffit amplement. Donc, déjà, cette première chose, être scrupuleux dans le respect de la parole et de l'engagement que l'on a pris, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de monnaie sonnante et trébuchante. Ça, c'est déjà donc le premier point. Et puis après, on a cette seconde partie dans laquelle la Torah nous dit « Attention, lorsque tu auras un employé, l'auteur, le chalmo, beyomo titen socharo, qu'on soit bien clair, n'attends pas pour le payer, mais le jour même, tu devras le payer. » C'est-à-dire, on ne peut pas payer quelqu'un qui a travaillé chez nous avec du retard. Pourquoi ? Parce que cette personne attend son salaire et donc il y a ici une forme de vol de ne pas la payer immédiatement, ne serait-ce que le stress qu'elle peut avoir de ne pas avoir reçu immédiatement ce don, ce qui lui revient. On rapporte d'ailleurs une histoire très intéressante, une histoire vraie qui a eu lieu, avec un grand maître, vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelait le Stapler, Rabbi Yaakov Israel Kanievski, c'était le père Rav Chaim Kanievski, qu'aujourd'hui beaucoup plus de gens connaissent, ont entendu parler, eh bien, lui-même était un géant, évidemment, de la Torah absolue, et il écrivait des livres. Et puis, on raconte qu'un soir, il est parti, ou il a envoyé quelqu'un, ou je crois que non, c'est lui-même qui est parti, voir la personne qui lui avait soit corrigé un livre, parce qu'il y avait des relecteurs, et puis, il lui a amené ce qu'il lui devait. Alors, la personne lui a dit, mais Rav, vous savez très bien que je vous ai dit, c'est pas grave si vous me payez demain, après-demain ou après-après-demain, tout va bien. Et le Rav de lui dire, tu as raison, mais l'obligation que j'ai de te payer en temps et en heure reste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas juste là par peur que la personne qui n'aurait pas été payée puisse se retrouver dans une situation difficile, bien que ça soit ça que la Torah mette en exergue en premier lieu, mais c'est une obligation en tant que telle. Et malheureusement, souvent, on peut prendre des libertés avec ce genre de choses en inventant toutes sortes de théories comme quoi la personne, c'est pas grave, elle peut attendre. Et parfois même, on demande à la personne et on lui dit, bon, ben, si ça te dérange pas, je te paierai pas maintenant, je te paierai demain, après-demain ou la semaine prochaine. Eh bien, non. Sur cela, la Torah est très, très claire. Pourquoi ? Parce que, au fond, c'est un lieu dans lequel il ne faut pas s'habituer à la légèreté. Pourquoi ? Parce que dans les autres interdits de la Torah, si on s'habitue à une forme de légèreté, eh bien évidemment, on n'aura pas ce problème de se retrouver à un moment en train de risquer de transgresser. Pourquoi ? Parce que on est au courant qu'on est un petit peu borderline. Par contre, dans tout ce qui a trait à l'univers de l'argent, là, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. C'est quelque chose sur lequel on peut tomber beaucoup plus rapidement, en effet, dans ce piège-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, la Torah nous demande d'être extrêmement vigilants par rapport à ce point-là. Donc, à partir de là, eh bien, à partir de là, on voit bien qu'on a cette double mitzvah dans la parasha. À nous de savoir être vigilants par rapport à cela. Et au fond, c'est extraordinaire parce que ça crée une éthique qui nous permettra d'avancer au quotidien de manière droite. En rappelons-nous, et c'est un petit peu sur ça que je voudrais conclure, que Elokim bara et Adam Yachar, que Dieu a créé l'individu Yachar droit, dit le texte de Hema Bikshu Cheshbonot Rabim, alors que malheureusement, souvent les gens rentrent dans des calculs un petit peu tortueux qui les avancent, qui les arrangent. Et à nous de savoir justement rester dans cette yashroute, rester dans cette droiture, et plus particulièrement, comme je vous le disais, dans le monde et dans l'univers de l'argent.
Ce que vous décrivez un peu, Rav Lemel, c'est être conséquent. Et il y a quelque chose de toujours très impressionnant avec ce passouk sur le salaire, c'est que le salaire pour un homme, c'est plus que l'argent qu'il a gagné. C'est tout son être. Son salaire, c'est ce qu'il est. C'est son travail, c'est sa dignité. Enfin, c'est sa dignité. Peut-être que c'est pour ça que la Torah insiste autant sur le fait que tu lui donnes tout de suite.
Complètement. Et d'ailleurs, au-delà de ça, vous avez raison, au-delà de ça, c'est aussi ce sentiment que l'on a, qui est extraordinaire de se dire, quelque part, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est nous-mêmes qui l'avons mérité. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote avec mon père, Zichrono Livracha. Il y avait dans la synagogue que je fréquentais quand j'étais enfant, eh bien, il y avait une personne qui venait de temps à autre le matin. C'était une personne qui n'avait pas de moyens, mais elle vendait des stylos et différents articles pour écrire. Et je me rappelle un jour, j'avais dit à mon père, mais pourquoi tu lui achètes? Regarde, c'est beaucoup plus cher que dans le magasin. Et mon père m'a dit oui, mais ça s'appelle pour lui son gagne-pain. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on va lui acheter parce qu'il a besoin de savoir que ce qu'il a, c'est le fruit de son travail et c'est sans doute la plus belle chose qu'on peut lui donner. Ça, c'est un petit peu un exemple qui nous montre bien l'importance, en effet, d'être vigilant par rapport à ces notions-là.
Ravi de Lemel, je vous remercie. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en lien présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Ouévorach.
Rav Mordechai, on continue notre étude de la paracha et vous voulez, vous, ce soir, réfléchir avec nous sur les mariages interdits. Donc, on lit dans notre chapitre. Et vous vous posez une question. Pourquoi est-ce que les mariages avec les Moabim, les fameux Moabim, la Moabite aussi, bref, il y a toute une histoire autour de cette tribu. Pourquoi on a presque l'impression que la Torah s'acharne en disant vraiment ça c'est interdit, alors qu'on voit bien que les descendants d'autres tribus sont tout aussi terribles. Pourquoi il y a quelque chose de particulier autour de la tribu des Moabites? Rav Mordechai Biton.
Alors, on le voit ici dans la paracha où la Torah interdit finalement aux hommes d'Ammon et de Moab, d'accord, de la veau bécale, c'est-à-dire en vérité de convoler en juste noces, en quelque sorte, avec des femmes juives. Par contre, avec le temps, les femmes de Moab seront acceptées. Cet enseignement, il a été accepté, on va dire, presque officiellement à l'époque de Boaz, c'est-à-dire quelques générations après la sortie d'Égypte. Puis finalement, Boaz a épousé Ruth, qui était une convertie de Moab, et d'elle et de cette union est descendu David Amelech. Et lorsque les Baal et la Shonara, ceux qui faisaient la Shonara, voulaient énerver David, ils lui disaient alors, cette dracha, ce limoud là, ce qu'on a appris de la Torah, que le Moab, l'homme de Moab ne peut pas rentrer dans le peuple juif, mais la femme de Moab peut. Enfin bon, c'est toujours accepté, ça. On se moquait un petit peu de David, qui lui descendait d'une femme moabite. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi la Torah va s'acharner sur Ammon et Moab, alors qu'elle va permettre aux descendants de Esav, par exemple, de se convertir, et elle permettra donc à ces descendants-là de rentrer dans le peuple juif. Mais le peuple de Esav, c'est un peuple qui a reçu une bénédiction. Alcha Becha Tirtie, tu vivras par ton épée. Et les descendants de Esav ont fait usage de cette épée contre le peuple juif tout au long de l'histoire. L'Inquisition, les croisades, la Shoah, etc., etc., etc. Donc il y a quand même quelque chose d'assez énorme à s'acharner sur un peuple. Et la raison pour laquelle la Torah refuse Ammon et Moab, bah, c'est principalement d'abord parce que quand les Bnei Israël sont passés à proximité de leur territoire, ils ne sont pas sortis à leur rencontre pour leur proposer de l'eau et du pain, leur proposer une hospitalité. Donc cette mitzvah-là de l'hospitalité, cette mitzvah d'accueillir quelqu'un qui est en voyage de lui, de l'eau, du pain, d'avoir pitié de lui, la peine pour lui de s'associer à la difficulté qu'il peut avoir dans son voyage, et donc de lui donner l'hospitalité, c'est donc une mitzvah ici absolument considérable. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur cette nation. Alors, il faut savoir que Moab, lorsque ils ont vu qu'Israël avait donc battu les rois de Sihon et Og, ils ont donc loué les services de Bilam. Bilam, lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas les maudire, a suggéré à Moab et à Midian d'utiliser un stratagème et de provoquer une prostitution collective. De là, nous voyons que celui qui fait fauter l'autre a un statut au regard de la Torah beaucoup plus détestable et beaucoup plus condamnable qu'une personne qui tue. Parce que celui qui fait fauter, eh ben, il pousse la personne finalement à perdre sa stature spirituelle, donc son âme, dans ce monde-ci, mais également dans le monde futur. C'est comme si il prononçait sur lui une mort spirituelle. Donc il y a donc dans l'attitude de Bilam, dans le stratagème qu'il a mis au point avec les gens de Moab et les gens de Midian, il y a donc cette idée de mort spirituelle, de détruire spirituellement le peuple juif. Donc, ça explique déjà pourquoi il y a une méfiance particulière vis-à-vis de ce peuple. Mais ça ne nous explique pas pourquoi les hommes plutôt que les femmes. Alors, la réponse est la suivante. On n'attendait pas des femmes qu'elles sortent et qu'elles amènent à boire et à manger. On l'attendait des hommes. La Torah dit, finalement, si une femme ne sort pas à la rencontre d'une population pour proposer son hospitalité, peut-être que tout simplement elle fait preuve d'une certaine pudeur. Mais qu'un homme ne le fasse pas alors qu'il n'a pas cette obligation, ça relève réellement de l'égoïsme, de l'égocentrisme, ça relève de midot, de traits de caractère qui sont des traits de caractère déplorables. Et là aussi, on est au cœur du sujet. Pourquoi, par exemple, nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, refusent le mariage avec des femmes de Canaan, et donc ils vont essayer de prendre des femmes qui viennent plutôt de chez Lavan? On sait que Lavan, la famille de Bethuel et Lavan, telle que c'est raconté dans Bereshit, n'étaient pas spécialement des gens raffinés avec des bonnes midotes. Mais, nous disent nos sages, leurs midotes à eux étaient moins pires que les midotes de Canaan. En Canaan, dans la terre de Canaan, on avait enraciné l'égoïsme, on avait enraciné la haine de l'autre, on avait enraciné le meurtre. C'était le meurtre d'enfants notamment pour les cultes idolâtres. Donc on avait en quelque sorte construit les personnalités des individus autour d'un égoïsme meurtrier. Et là on voit quelque chose de très intéressant, c'est que dans le Sefer Bereshit, c'est-à-dire le début de la Torah, et dans Dvarim, on est ici vers la fin de la Torah se soucie d'abord et avant tout de l'édifice des midot, des traits de caractère d'un individu. Et ça il faut le rappeler. Vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui font très attention, comme disait Rabbi Baour de Medjibodj, ils font très attention à ne pas rentrer une fourmi dans la bouche, mais ils sont capables de se dévorer vivants l'un à l'autre pour défendre leurs intérêts ou pour défendre leur ego. Et on le voit dans les familles, on le voit dans les communautés, on voit que des gens sont souvent très makpis, très pointilleux sur des halakhot, sur des lois à juste titre, qui concernent le Shabbat, la Kashrout, etc., mais oublient complètement tout ce qui touche au Ben Adam, la Chaverou, à la relation à l'autre, et Ben Adam, les Hatzmo, et tout ce qui touche à la vie des individus vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire les midot. Et pourquoi finalement c'est si dramatique? La raison, elle est très simple, elle nous est donnée notamment par le Chida. Le Rav Chida a vécu il y a environ 200 ans. Il explique qu'un individu qui a des midot mouchratot, qui a des midot, des sales midot, de gava, d'orgueil, de mépris de l'autre, qui ne travaille pas lui-même, qui n'affine pas son caractère, qui ne fait pas attention à affiner son caractère, ses mitzvot, c'est-à-dire l'accomplissement des commandements de la Torah, eh bien, elles vont aller renforcer les forces du mal. Absolument incroyable. Le Chida a été un des plus grands maîtres de ces 300 dernières années donc dans le monde juif. Il nous dit la chose suivante, il nous dit quelqu'un qui a des sales midot, qui a un très sale caractère, les mitzvot qu'il fait, elles ne servent pas sa spiritualité, ni même l'essor de la spiritualité dans le monde. Elles servent les forces du mal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il faut comparer ça, si vous voulez, à quelqu'un qui tirerait une flèche. Quelqu'un qui tire une flèche, d'accord? Il tire une flèche, il vise une cible, d'accord? Mais lui-même, en vérité, c'est quelqu'un qui n'est pas entraîné. Il n'a pas la patience de viser sa cible. Il n'a pas le savoir-faire. Il n'a pas, notamment, la capacité de maîtriser son geste. Où est-ce que sa flèche va aller? Ben, n'importe où. Alors que quelqu'un, un archer, qui a maîtrisé son geste, qui maîtrise sa respiration, qui maîtrise son arme, en quelque sorte, ben, il envoie la flèche, elle va aller sur sa cible. Faire une mitzvah, c'est tirer une flèche. C'est-à-dire essayer d'atteindre une cible. Quelle cible on cherche à atteindre? Eh bien, tout simplement muscler la spiritualité dans le monde. La mienne, parce que je fais mitzvah, celle des gens qui sont autour de moi et celle du monde entier. Muscler ma spiritualité, on le comprend, c'est mathématique, mais muscler la spiritualité du monde, c'est mystique déjà, c'est plus difficile à percevoir. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Si je suis assis dans mon coin et que je fais une mitzvah, je renforce le monde entier. Si je fais une avera, je m'affaiblis, j'affaiblis le monde entier. C'est ce que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, chacun doit considérer qu'il est moitié coupable, moitié innocent, que le monde est moitié coupable, moitié innocent. Donc quand je fais une mitzvah, je tire une flèche et j'essaie d'atteindre une cible. Mais si j'ai des midot qui sont déplorables, et qu'en vérité, cette mitzvah que je fais, elle s'insère finalement dans une personnalité qui est une personnalité non travaillée, et ce, de manière active. Je ne veux pas travailler ma mitzvah. Ben, qu'est-ce qui se passe ? Cette mitzvah-là, elle est habitée en quelque sorte par ce désordre émotionnel, par ce désordre des midot, et donc elle est aussi faite de ce mal. Et donc elle voyage avec ce mal. Et donc elle va répandre le mal dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle une mitzvah qui est accomplie avec orgueil, par exemple la mitzvah de la tzedaka, d'accord ? La tzedaka, le fiat chesed, la tzedaka, elle marche avec le chesed, avec la bonté qu'on dit, mais il faut faire attention, il faut sourire, il y a toutes sortes de halakhot, d'accord ? Eh bien, elle détruit tout. Une séouda de Shabbat, un repas de Shabbat, où on pense, un kidouche de Shabbat, on a eu ce problème il n'y a pas longtemps dans toutes les synagogues, où les gens pensent qu'à se goinfrer, à se baffrer, et après se comportent n'importe comment, ils rentrent chez eux, ils sont à moitié bourrés, ils crient sur leurs femmes, ils crient sur les enfants, et tout, etc. Elle est où la mitzvah ? Il est où le kidouche ? Il est où le Shabbat ? On a tout détruit. Tout le monde comprend ça quand ça intervient de manière aussi cadrée. Mais il faut comprendre que du point de vue mystique et spirituel, c'est la même chose. C'est ce que la Torah vient nous dire ici. Les midot, le travail sur soi, c'est le socle à partir duquel la flèche est envoyée. Et si ce socle n'est pas travaillé, la flèche, elle envoie du poison dans le monde. C'est la raison pour laquelle une mitzvah, elle doit toujours être accompagnée. L'accomplissement des mitzvot doit être accompagné d'un travail sur soi, d'un travail des midot. C'est ce que la Torah vient nous enseigner dans cette parasha de Kitetsé. Et c'est un enseignement tout à fait fondamental à méditer, à réfléchir en étudiant cette paracha donc dans les détails. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Rav Mordechai, en sachant bien sûr que si on réfléchit, vous me dites si j'ai compris, hein, quand, si on réfléchit, comme vous dites, à viser juste, quoi, en fait, à être juste, à parler juste, à avoir le ton juste. Bon, il y a aussi Betor chez le Lishma Balishma, il ne faut pas que les gens se disent oh, j'y arrive.
Ah, absolument.
Il y a aussi l'idée, bon, si on est avec le ton juste, et en fait, si on est honnête vis-à-vis de soi-même, bon, on avance, quoi. On a droit aussi à ne pas être parfait. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari yeh, shalom shokat shoy meh.